Slate Podcast.
Bonjour, ce n'est plus Kétéran, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfert, qui depuis 3 ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
Je me souviens souvent de ce vers de Valérie Larbeau que j'avais entendu pendant mes études, dont je n'avais jamais lu le poème en entier, je crois, et qui disait « J'ai des souvenirs de ville comme on a des souvenirs d'amour ». C'était dans les poésies de Barnabous et je trouvais ça merveilleux d'avoir ce genre de souvenirs, de contenir en soi des villes comme des mondes personnels, des villes qui n'avaient rien perdu de leur fantasme, dont la réalité n'avait pas effacé la puissance. J'adore ce désir que l'on peut avoir pour une géographie, souvent davantage quand on la découvre, qu'elle est encore moitié imaginaire, qu'on a envie de lui appartenir, de faire corps avec elle. Le désir que l'on peut avoir pour une ville, pour ce qu'elle peut construire en nous, guérir, réparer. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média, et voici l'histoire de Clara, au micro d'Iris Ouedraogo.
À 15 ans, j'ai une vie normale dans mon village, mon petit village dans la campagne. Mais je sens, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours senti que j'avais une vie qui serait différente de celle des autres, que j'aurais un destin bouleversé. Quoi. C'est vraiment dans mes premiers souvenirs, j'ai cette impression-là qui vient en moi. Pour moi, ma vie, elle a commencé le jour où j'ai fait une crise d'épilepsie. Donc ce jour-là, je suis dans une classe en géographie, en rénovée, donc au lycée, avec mes amis. Je suis près de ma sœur jumelle et une amie, et là, je fais une crise d'épilepsie, quoi. Et donc, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai senti que j'allais vraiment mourir, parce que je me suis sentie partir, en fait, en faisant cette crise d'épilepsie. Et suite à cette crise d'épilepsie, on a découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Et donc, ça a été le premier énorme choc dans ma vie, évidemment, qu'on m'apprenne ça, parce que j'avais 15 ans et que c'était vraiment difficile à croire. C'est bouleversant d'entendre ça si jeune, en fait. Et à partir de là, j'ai jamais cessé de penser que ma santé serait toujours un problème dans ma vie, quoi. On m'a opéré une première fois. On m'a dit que cette tumeur ne reviendrait pas normalement, que ça allait aller, que j'étais guérie. Et donc voilà, moi, j'ai terminé mes rénovées. Je suis entrée à l'université, j'ai commencé des études de sociologie. Je me fais des amis, j'arrive vraiment à me sentir inclus dans ce groupe d'étudiants de Louvain-la-Neuve, mon campus en Belgique. Et je sens que je suis responsable de certains projets. Je suis vraiment épanouie dans ma vie. Et j'apprends à 20 ans que je fais un contrôle, une IRM de contrôle, quand je dois en faire tous les 6 mois, depuis que j'ai 15 ans. Et j'apprends à 20 ans que ma tumeur a récidivé. À nouveau, un cataclysme énorme dans ma vie, vraiment une surprise. Je pensais vraiment que ça ne reviendrait pas. Je pensais que j'étais guérie. C'est ce que j'avais compris, en tout cas, à 15 ans. Sans doute parce que j'étais trop jeune pour entendre la vérité. Mais donc voilà, j'ai 20 ans et on me dit que ma tumeur est revenue. C'était terrible, vraiment. C'était un choc. Ça a été une deuxième énorme claque. Mais je savais qu'il fallait que ça aille, quoi. Il faut que je me remette debout. Il faut que ça aille absolument. Il faut que je continue d'avoir cette vie comme les autres, cette vie d'étudiante épanouie qui réussit bien ses études. Et en plus, j'avais la possibilité de partir en Erasmus l'année d'après et je voulais absolument, absolument partir. Donc j'ai tout donné, malgré ma maladie, malgré cette annonce de récidive, j'ai tout donné pour réussir, euh, pour réussir cette année à l'université et pour partir à Valparaiso au Chili. C'était ma destination de rêve, le Chili, parce que ça m'évoquait les montagnes, le soleil. Je donne tout cette toute année-là, vraiment, je me dépasse. On m'opère une deuxième fois du cerveau, une très longue opération. C'était vraiment très long pour mes proches et même pour moi. Et je me réveille et je suis paralysée du côté gauche, quoi. Donc, c'est la panique, évidemment. Je sens que mon côté gauche ne réagit plus du tout. Et je me dis, purée, c'est pas vrai, je ne pourrais plus marcher, quoi. C'est horrible. Je suis vraiment... Je suis complètement paniquée. Je ne peux pas imaginer plus marcher. C'est juste pas possible. J'ai 20 ans, c'est pas possible, quoi. Et en fait, vu que c'est neurologique, c'est juste qu'il y avait eu un couac pendant l'opération. Et donc, je peux récupérer tout. Et donc, je commence à récupérer. Ça commence par le visage qui commence à se débloquer. Et puis, mon bras. Et je sens mon corps, avec tous les efforts que je donne, je sens mon corps qui se remet en route normalement. Et je remarche, je réussis à marcher et je reprends une vie normale. Je réussis mes études. J'ai des bons résultats, donc je pars en Erasmus. J'ai le droit, je suis la personne sélectionnée pour partir à Valparaiso au Chili. Et donc, je suis encore plus heureuse que si je n'avais pas été opérée, en fait, parce que je me sens vraiment comme une warrior et je sens que j'avais raison, que ma vie est vraiment incroyable et intense et que tout ça a du sens, en fait, parce qu'en plus, j'ai cette maladie, mais que je ne souffre pas, que je suis sur mes pieds et que ça va. Donc, je sens que je suis encore plus forte qu'avant, en fait, et qu'il n'y a plus grand-chose qui peut m'arrêter. Donc, voilà. Je pars en Erasmus, c'était incroyable. Je tombe amoureuse vraiment de Valparaiso. Ça devient mon endroit, mon cocon dans le monde, quoi. Vraiment, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville et ça a été une expérience, les 6 mois les plus merveilleux de ma vie. C'est une ville vraiment exceptionnelle, c'est une ville unique dans le monde et beaucoup de gens qui y vont ont le même sentiment, c'est que c'est un endroit magique. Il y a une espèce de magie parce que avant, les gens arrivaient par bateau et ils voyaient toutes ces collines avec toutes ces petites maisons colorées. Et si vous arrivez par la terre, ben vous quittez les Andes, les incroyables Andes qui sont vraiment mystiques, et vous arrivez vers l'océan et vous voyez par derrière ces collines. Et c'est une ville merveilleuse, en fait, parce que c'est une ville qui a été marquée, comme tout le Chili, par les années de dictature, mais qui est remplie de poésie. L'art est partout à Valparaiso, les couleurs sont partout. Et vous avez une espèce de sérénité à monter les petites montagnes, à être perché comme ça. On voit l'océan au loin. Derrière, on peut voir les Andes. Et c'est vraiment... c'est une ville vraiment poétique, en fait. Donc, je suis à la fin de mes études. Et donc, évidemment, on se pose le choix de ce que je veux faire dans la vie. Mais voilà, moi, depuis que... Ça remonte même à mes 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, que j'ai fait 8 crises d'épilepsie, où j'ai à chaque fois cru que j'allais mourir, etc. J'ai toujours eu une vision assez, assez épicurienne de ma vie, en fait. Je me suis toujours dit, je fais ce que je veux. On a le droit de rien m'imposer parce que moi, je sais combien j'ai déjà souffert à mon âge. Et donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. On ne peut pas m'imposer de rester en Belgique, d'avoir un travail métro, boulot, dodo, parce que de toute façon, en fait, je comprends que dès mes 15 ans, j'avais compris que je n'avais pas une vie normale. Et donc, j'estime à la sortie de mes études que je suis libre, que j'ai le droit, si je veux, de partir et que j'ai vraiment une urgence, en fait, à être heureuse. Je sens cette urgence avec cette maladie où tous les matins, je me réveille en me demandant est-ce que la tumeur est revenue ? Est-ce qu'elle s'est transformée ? Est-ce que c'est devenu plus grave que ce que ça l'est déjà ? J'ai souvent cette impression qui vient en moi de me dire « Mais en fait, il faut vraiment vivre maintenant et vivre des choses fortes. Ça ne sert à rien d'avoir déjà tant souffert si ce n'est pas pour vivre des choses exceptionnelles. » C'est ma dernière année d'études, mais je tombe vraiment très amoureuse d'un garçon avec qui on a une relation, on est très fusionnel, mais c'est une relation très compliquée en fait. Et il se trouve que je souffre beaucoup de cette relation au final, que c'est vraiment que c'est très très dur, que ça me paraît plus dur que tout, en fait. Ça me paraît plus dur qu'avoir survécu à mes tumeurs du cerveau. C'est trop difficile. Et du coup, je décide de retraverser l'océan pour rejoindre Valparaiso. Parce que je sais que le seul endroit qui pourra me guérir dans le monde, c'est Valparaiso. Et je me sens super forte, en fait, de partir toute seule. Parce que, voilà, j'ai eu des années difficiles avec cette récidive. Je sais que j'ai cette maladie qui est là. Je l'ai bien compris cette fois-ci, parce que si elle est revenue, je me rends bien compte que c'est parce que c'est pas juste une tumeur, c'est une maladie avec laquelle je dois vivre tous les jours. Et je pars vraiment en me sentant forte, et je me sens forte d'avoir réussi à dire, voilà, il y a eu cette histoire compliquée, mais pour passer au-dessus, j'ai décidé de traverser un océan et il faut que ça aille, quoi. À nouveau, je pars en mode fonceuse, je me dis, ça va aller, je vais refaire ma vie et ça va aller. Donc voilà, je vais un peu en Argentine au début, et puis j'arrive à Valparaiso. Et en fait, une fois que j'ai arrivé à Valparaiso, ça a été comme une bouffée d'oxygène. Et Valparaiso m'a amené toutes les réponses que j'espérais, en fait. C'était vraiment une retrouvaille merveilleuse avec cette ville. Et je savais, en arrivant, je savais que j'étais à l'endroit où je devais être. Et en fait, j'avais postulé pour être volontaire dans une auberge de jeunesse. Et c'était une auberge éco-responsable. Et vu que j'ai toujours été très sensible à cette question de l'environnement, je sentais que j'allais vraiment bien, que j'allais vraiment apprécier l'endroit. Je suis accueillie par un manager argentin de l'auberge qui est vraiment adorable avec moi. Après, je me dis directement que ces gens ont l'air vraiment tous un peu perchés, un peu dans leur monde. Et je me dis que je vais peut-être me sentir fort différente à eux, dans le sens où moi, j'ai déjà une expérience de la maladie, des souffrances dans la vie, qu'eux n'ont peut-être pas vu à quel point ils ont l'air heureux et un peu sur le perché, quoi, sur leur nuage. Mais je me dis que je ne vais pas en parler et que je vais essayer d'être normale et d'être juste la belge de l'auberge qui fait des blagues et qui met l'ambiance, quoi. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, on venait tous de pays différents et j'ai super vite fait ma place. Je voyais bien que les gens m'appréciaient vraiment, et spécialement un des managers, Marco, un manager brésilien avec qui j'ai directement un lien vraiment spécial et avec qui directement on peut parler de sujets plus profonds. Et c'est une personne que j'apprécie vraiment. Et je sens que ça va être une personne importante pour moi. Et je sens que cette équipe, que tous ces gens sont déjà comme une nouvelle famille pour moi, en fait. Et que je peux y creuser ma place, que je peux être moi-même. Et je me sens super bien. Dans cette auberge, je sais que c'est l'endroit où je devais arriver, quoi. Et j'avais vraiment cette euphorie, ce bonheur retrouvé. C'était après avoir tant souffert à me dire que j'étais différente, que je ne pouvais pas avoir une vie comme les autres, que je ne pouvais pas être heureuse. Et j'avais tellement souffert aussi à cause de ce garçon qui m'avait fait sentir, qui m'avait donné l'impression que j'étais vraiment pas importante. Ben, je sens que j'appartiens à un groupe et que je suis dans un endroit qui me correspond vraiment. Et en plus, mon manager, peu de temps après mon arrivée, m'évoque la possibilité de travailler comme responsable du côté écologie de l'auberge. Donc j'avais des perspectives, quoi. Je me disais vraiment, voilà. Je peux trouver un travail, en fait, et ça ne me dérange pas d'avoir un travail, mais c'est un travail qui aura du sens parce que je veux vraiment avoir une vie éco-responsable. Et en plus, vu que c'est une auberge de jeunesse, ben, je vais en plus m'amuser et je vais rester avec ces gens que j'adore, et je veux vraiment rester parce que j'ai vraiment retrouvé mon bonheur dans cette auberge de jeunesse, et c'est merveilleux. Tous les astres s'alignent, en fait, c'est merveilleux. Et donc, je me rapproche rapidement de Marco. Il me plaît vraiment et que je lui plais aussi. Et donc, on est vraiment complices. On passe pas mal de moments à deux en dehors de l'auberge. Et c'est pour moi, c'est une personne à qui je peux me confier. Et je vois dans ses yeux, je sens dans ses paroles et tout que je compte pour lui et qu'il me considère comme une fille jolie, attirante, intéressante, intelligente, etc. Et donc en fait, ça me fait vraiment du bien parce que je me rends compte que je suis une personne digne d'être appréciée et d'être pourquoi pas aimée, oui, appréciée, aimée. Et donc, en fait, le nouvel an se rapproche. Et le nouvel an à Valparaíso, c'est vraiment l'événement à ne pas rater. C'est dans tout le Chili, on en parle parce que c'est le plus beau feu d'artifice, en fait. C'est... Et moi, je rêvais vraiment de faire un nouvel an à Valparaíso parce que mon Erasmus, c'était après le nouvel an. Et on m'avait dit, il faut vraiment que tu reviennes pour le soir du 31 décembre parce que c'est le plus beau feu d'artifice d'Amérique latine. Et tout le monde va à Valparaíso et dans les rues, c'est la folie. Et donc, pour moi, c'était vraiment symbolique de passer, d'être revenue après mon Erasmus, parce que j'avais fait cette promesse à Valparaíso de revenir, et d'être revenue et de pouvoir le passer avec ces gens que j'aime tant. C'est la consécration de mon rêve, quoi. C'est merveilleux pour moi. Et donc, en fait, mon auberge de jeunesse, elle est située une rue en parallèle de l'océan. C'est une rue avec beaucoup de vieux édifices qui datent d'avant la dictature, des vieux édifices qui doivent avoir une centaine d'années. Et en fait, à deux bâtiments de mon auberge de jeunesse, il y a un vieux palace. Et devant ce vieux palace, il y a toujours un garde avec qui je m'entends bien, Panjo. Tous les matins, je parle un peu avec le garde et tout, on s'entend bien. Et je comprends de fil et aiguille qu'en fait, il nous propose d'avoir accès au toit du bâtiment pour pouvoir voir le feu d'artifice. Et donc, en fait, c'est vraiment le plan de rêve à Valparaíso. Si tu peux avoir accès à un toit super haut, parce que c'est un bâtiment vraiment haut, c'est trop bien. C'est le plan de rêve pour voir le feu d'artifice du Nouvel An. Et donc, la soirée arrive, le 31 décembre. Moi, je suis surexcitée, je suis vraiment trop heureuse. On commence à boire, à danser sur la terrasse. Il y a plein de gens parce qu'on a organisé une grande fête un peu ouverte à tout le monde. Et il y a surtout tous les volontaires et les managers. Et donc, il y a un peu toute ma famille du Chili, quoi. Et donc, je m'amuse vraiment bien. Je suis sur la terrasse et je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment heureuse. Et vers 23h30, il est temps de se déplacer vers le toit pour ne pas rater le feu d'artifice. Et moi, je suis la première à partir du groupe parce que je suis trop excitée, quoi. C'est vraiment le moment de ma vie. Je vais voir ces feux d'artifice depuis le toit. Ça va être trop bien. Donc, je suis vraiment trop excitée. Et on part à un petit groupe de 10. Et donc, on quitte l'auberge de jeunesse. On entre dans le palace. Pancho, le garde, nous fait entrer. On entre. Et moi, je suis la première du groupe parce que vraiment, je suis surexcitée. Je trottine, je monte un étage, deux étages, trois étages. Je vois une petite échelle en bois. Je me dis, il faut monter, il n'y a pas le choix. Donc, je monte sur la petite échelle en bois. Et là, je m'approche de la coupole parce que c'est un bâtiment vraiment avec une super belle façade et une énorme coupole au-dessus. Et donc, moi, je m'approche de la coupole et là, je m'arrête. Je réfléchis, je me pose un peu et je regarde le paysage, en fait. Et c'est merveilleux parce que je vois l'océan. Je fais le tour, je me retourne et je vois les collines de Valparaíso. Il fait noir, elles sont illuminées par des milliers de petites lumières, les petites lumières des fenêtres. Et c'est merveilleux, en fait. C'est merveilleux, il fait bon parce que c'est l'été. Je me sens vraiment bien, je suis exactement là où je dois être, avec qui je dois être. Et je prends une grande respiration et je prends le temps de me rendre compte que je suis vraiment heureuse et que je vis vraiment un rêve. Et donc là, mon ami se met à côté de moi. Et en fait, j'entends un bruit de verre qui craque, un bruit très clair, très fort de verre qui craque. Et là, en fait, je sens mon corps qui tombe. Un corps à 15 mètres d'hauteur, un corps de 60 kilos qui tombe, ça doit prendre moins de 2 secondes. Mais en fait, pour moi, ça a dû au moins durer 10 secondes parce qu'en fait, je suis sur le toit. Et quand j'entends le verre qui craque, au millième de seconde près, je me dis « Waouh, t'es très haut ». Il n'y a pas d'étage entre le toit et le rez-de-chaussée parce que tu es près de la coupole. Et que donc, c'est ce genre de bâtiment où tu entres, tu vois la coupole en haut toit. Et donc, c'est pour l'architecture. Et donc, je sais, en entendant le verre qui craque, je sais déjà que je vais tomber de très haut et que mon corps va percuter du béton parce que c'est un chantier en travaux. Donc, je sais que l'impact va être énorme. Et je sais que ce n'est pas impossible de m'en sortir. Je sais qu'une chute si haute, ce n'est pas possible. Mais je ne me cambre pas, je ne contracte pas mon corps, en fait. Mon corps est complètement détendu parce que je sais que de toute façon, je ne peux pas lutter contre ce qui va m'arriver. Je sais que je vais mourir et j'ai déjà cru une dizaine de fois que j'allais mourir. Donc, c'est comme... Je me sens apaisée comme ça. J'ai l'impression, en fait, que je suis une plume et... Et voilà, en fait, je suis détendue parce que je suis prête à mourir. Et en fait, je pense ça, et puis je sens mes os, le contact de mes os sur de mes chevilles sur le béton. J'entends encore l'énorme crack que ça a fait dans mon corps. Et je vois encore mon corps s'effondrer sur l'impact de mes pieds sur le béton, mon genou qui se plie en deux et mon coccyx qui se brise. Et donc là, je suis consciente. Je suis sur le sol, je suis consciente. Et Marco est à côté de moi, en fait. Marco est à côté de moi. Et c'est lui qui me permet de ne pas voir l'état de mes jambes. Mais moi, je sais que c'est très grave. Et je m'entends... En fait, je vois la scène de haut. Je vois que je suis en train de crier. Que je demande... Je sais que je n'étais pas le seul corps à être tombé. Je sais qu'il y avait un deuxième corps. Je sais qu'il y a une autre personne qui était à côté de moi. Mais dans le choc, je ne me rappelle plus qui c'est, quoi. Et donc, dans l'émotion, avec l'adrénaline, je ne sais pas, avec le choc... la seule chose qui m'obsède, c'est de savoir qui est tombé avec moi. Donc, j'arrête pas de poser cette question. Je me vide de mon sang, j'ai mes pieds. J'ai presque perdu mes pieds, mais il y a cette question qui m'obsède de savoir qui est tombé avec moi, quoi. Donc, je demande à Marco, qui est tombé avec moi, qui est tombé avec moi. Mais il me dit rien. Il me prend dans ses bras. Et c'est vraiment parce qu'il est là, en fait, que je reste en vie, je crois. Parce que je tenais vraiment à lui et qu'il me tenait dans ses bras et qu'il fallait que ça aille, quoi. À nouveau, j'avais cette espèce d'instinct vital qui disait « Non, il faut que ça aille, ça va aller. » J'ai des flashs, quoi. Je sais que je suis dans l'ambulance, qu'on va m'emmener dans un hôpital. Je vois l'ambulance qui passe à côté du bâtiment. Je suis à l'intérieur, mais je la vois passer à côté du bâtiment. Et quand je reprends un peu connaissance, je suis dans une salle d'opération. Je sais que c'en est une parce que j'ai déjà été deux fois dans des salles d'opération. Et alors, en fait, je vois une infirmière au-dessus de moi et je sais lire sur son badge « Hôpital Van Buren ». Et c'est à ce moment-là que je me dis « Non, là, ça y est, tu vas mourir ». Parce que l'hôpital Van Buren, je le connais très bien. C'est l'hôpital public de Valparaiso. Et j'y étais pendant mon Erasmus parce que j'avais perdu connaissance et j'avais eu peur. Et quand on m'y a emmené pendant l'Erasmus, je m'étais dit, Clara, si un jour il te passe quelque chose de grave et qu'on t'emmène dans cet hôpital, tu vas mourir parce que c'est horrible, c'est inhumain, c'est pire qu'un hôpital de guerre, en fait. Et moi qui suis belge et qui profite d'un système de santé assez juste... Et donc, quand je vois sur le badge d'infirmière que je suis dans cet hôpital, là, je me dis, tu vas mourir, c'est pas possible. Et je reprends connaissance, je me réveille donc quelques heures après, dans une chambre d'hôpital. J'essaye d'appeler quelqu'un, mais il n'y a pas de sonnette. Donc, il faut hurler pour appeler les infirmières. Je n'ai pas d'oreiller, donc je suis très mal installée. Et je regarde mes jambes et je vois des barres de fer qui rentrent dans mes jambes. Dans mes pieds, sur les pointes de mes pieds. Mes jambes sont remplies de fer et je ne vois pas de désinfectant, enfin, je ne vois pas de coton ou quoi. Je vois directement le fer rentrer dans ma peau et je me dis, ce n'est pas possible, je vais avoir une énorme infection. Sans même savoir vraiment ce qui s'était passé, je me dis directement, ce n'est pas possible. Enfin, j'entendais ces femmes hurler autour de moi. C'était vraiment le début de l'enfer, en fait. Les réflexes que j'ai eus grâce à mes opérations déjà du cerveau, c'était en me réveillant de faire un petit check-up de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quoi. Et donc, je suis allongée et je vois mes jambes remplies de fer. Et donc, je me dis, bon, on va commencer par le haut, quoi. Donc, je touche ma tête et je vois que ça va, plus ou moins, j'ai l'impression. Mes bras, ça a l'air d'aller aussi. Et je descends, je sens entre mes jambes. J'avais vraiment peur de plus sentir mes parties intimes. Mais donc, je sens encore mes parties intimes. Donc, ça va, je me dis, OK, ça va, t'as des sensations. Mais alors, j'arrive à mes jambes et là, c'est pas possible. Je peux pas, j'ai pas la force d'essayer de faire bouger mes pieds parce que déjà, ça me dégoûte, ça m'écœure de voir des barres rentrer dans ma chair, quoi, des barres de fer. Et donc, j'ai trop peur du verdict, donc je décide de laisser mes jambes tranquilles pour le moment, le temps de reprendre au moins mes esprits, quoi. Et en fait, je commence à essayer de me remémorer cette nuit et je me dis, purée, j'étais pas toute seule. C'est qui ? Avec qui est-ce que j'étais ? J'étais pas toute seule. Et là, je me souviens qui c'est. Je me souviens que c'est cet ami-là. Là, c'est là que le drame a vraiment commencé pour moi parce que les souvenirs reviennent peu à peu et je me souviens que je suis pas toute seule et je sais pas ce qu'il en est de mon ami. Et puis, en fait, je vois Marco qui arrive à l'embrasure de la porte et je vois, j'avais pas trop encore compris que c'était grave, mais je vois Marco qui me regarde et je lis dans son regard que la situation est très mauvaise, en fait. Je lis dans son regard que je suis dans un état terrible parce qu'il est très ému. Il accourt vers moi, il me prend la main et je sens qu'il est vraiment ému. Il a vraiment du mal à me parler. Et directement, je lui dis, Marco, dis-moi comment il va. Comment il va, cet ami où est-ce qu'il est? Comment il va? Et là, Marco me dit, t'inquiète pas, il va bien, mais il est dans une clinique privée. Et du coup, moi, je me dis, mais enfin, pourquoi lui est dans une clinique privée et moi dans ce taudis, quoi? Donc, je dis à Marco, mais c'est une blague. Pourquoi moi, c'est parce que je suis bête qu'on met dans un hôpital public. Enfin, je fais une petite blague bête comme ça, mais parce que sur le coup, je me disais, mais enfin, je vois pas pourquoi lui serait dans une bonne clinique et moi dans un hôpital public, quoi. Et voilà, donc Marco me dit, il est toujours mal, il va pas bien, mais ça va peut-être, il est toujours en vie, quoi. Et donc, je me dis, bon, ok, ça va, il est toujours en vie. Puis Marco s'en va, puis je réfléchis et je me dis quand même, ça m'étonne qu'il soit toujours en vie. Et je me dis, Marco avait l'air bizarre, quoi. Et Marco revient quelques minutes après et il me dit, écoute, je t'ai menti, il est mort sur le coup. Là, je me suis vraiment dit, mais c'est pas possible. Déjà, je me suis dit, c'est pas possible, il est mort. Et puis, je me suis dit, c'est pas possible, t'as survécu, quoi. T'es encore là. Qu'est-ce qu'il te faut? Enfin, c'est quand même incroyable. Et en fait, c'est en sachant que mon ami était mort que je me suis rendu compte aussi à quel point c'était grave à nouveau et à quel point j'étais en train de traverser une épreuve incroyable. Et alors, je me souviens que je m'assoupis. Et je me réveille et la télé est allumée. Il y a une télé pour la dizaine de femmes qu'on est dans la chambre. Et en fait, à la télé, c'est des images de mon ami qui passent en boucle tout le temps parce que c'est une chaîne d'infos en continu. Et donc, je vois cette photo de mon ami quelques heures avant sur la terrasse qui a fait un selfie avec sa tête et donc derrière tous mes autres amis, quoi. Et en fait, c'était juste quelques heures avant. Il faisait une photo, on était heureux, on était sur la terrasse. Et maintenant, il y a ce reportage qui passe en boucle et qui dit il y a eu un accident la nuit du Nouvel An à Valparaiso. Deux jeunes sont tombés d'une hauteur de 15 mètres. Donc, j'apprends que je suis tombée de 15 mètres. Et j'apprends, ils disent, la jeune belge est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital public de Valparaiso. Et donc, j'apprends par la télé qu'en fait, je suis entre la vie et la mort. Et je savais pas trop en fait où j'étais exactement dans cette à quel stade j'étais entre la vie et la mort, mais de l'entendre dire, ça m'a c'était terrible en fait, parce que tout le monde était au courant, que toutes les vies du coup elles sont toutes tournées vers moi et que moi j'étais là le corps détruit, du fer rampé sur mes jambes et en fait ouais, j'étais mon corps était mort, j'étais encore là, mais je voyais bien que mon corps il était vraiment mort.
Thank you.
Et tous ces jours-là, ça a duré 4 jours. Je suis restée 4 jours dans cet hôpital, dont un jour férié où il n'y avait pas de médicaments, pas de médecin pratiquement pour nous soigner. Donc j'ai souffert le martyr. Je souffre, c'est une souffrance, c'est impossible à décrire. Les os, on dit que c'est les douleurs les plus terribles, en fait, parce qu'il y a cette membrane autour de l'os qui fait qu'il est très sensible. Et moi, mes os, ils sont traversés par des bouts de fer et c'est vraiment le martyr. Et puis, je suis toute seule, en fait. Mon GSM s'est cassé dans la chute. Donc, je me réveille à chaque réveil. Et ça, c'est le cas pendant des mois, en fait. C'est que chaque réveil, je dois faire le point sur la situation. Pourquoi est-ce que je ne sais pas bouger? D'où vient cette douleur? Pourquoi j'ai si mal? Et donc, chaque réveil, il faut que je me remémore les événements, ce qui s'est passé. Et les seuls moments où j'ai un peu de trépied, c'est quand j'arrive à dormir, en fait. Et le cinquième jour, je vois ma maman qui arrive par la porte. Et à nouveau, je vois à travers le regard de ma maman que c'est terrible. Que ce n'est pas seulement un événement terrible pour moi, mais aussi pour toute ma famille et pour tous mes proches en Belgique. Ma maman, elle accourt près de mon lit et je vois bien dans ses yeux qu'elle est vraiment effrayée par l'endroit dans lequel je suis. Quoi. Que c'est vraiment... que c'est un endroit... que c'est inhumain, tout simplement. Que soigner des gens comme ça, c'est faire souffrir encore plus les gens, en fait. Et donc, ma maman me dit, dès le début, elle me dit qu'on va me transférer dans une clinique privée. Donc, en fait, c'est quand ma maman arrive que je me dis, pour la première fois, je vais pas mourir dans cet hôpital, quoi. Je vais pas... Ma maman est là, donc je vais m'en sortir. Et ben, c'est terrible, parce que je vais m'en sortir parce que je suis belge, parce que toutes ces vieilles, elles vont probablement mourir ici parce que personne ne les soigne, quoi. Mais moi, je vais m'en sortir parce que maman est là et qu'elle va me sortir de ce lit d'hôpital et je vais retourner chez moi. Je sens que je dois à nouveau, que je vais devoir me battre comme une warrior, mais je sens vraiment que... Je pense que ça va aller. Je me dis, ils vont réparer mes pieds, ça va, ils vont réparer mécaniquement mes pieds, ils vont les recoller à mes jambes, et donc ça va aller, je vais remarcher, et voilà, ça va, je vais avoir une vie normale. On va me rapatrier en civière dans un avion en Belgique, et directement, je me dis, je reviendrai au Chili, quoi. Et donc, bah oui, on me rapatrie en avion. J'arrive en Belgique, on me réopère. Et là commence une longue traversée du désert, en fait. Parce que j'atterris littéralement en Belgique. Je commence à comprendre tout ce qui s'est passé, à refaire le fil des événements aussi à travers les yeux et le vécu de mes amis qui ont entendu que j'avais fait un accident, etc. Mais c'est le plus terrible pour moi, en fait, c'est d'avoir quitté Valparaiso. C'est vraiment une déchirure, surtout en civière, quoi. Ça me bouleverse d'avoir quitté cette ville que j'aime tant en civière. Et c'est pour ça que je me fais la promesse, dès le début, d'y retourner en marchant, quoi. C'est vraiment un objectif pour moi et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. C'est ce qui me permet de tenir le coup toutes ces nuits sans dormir à cause de la douleur. Ça m'a permis d'accepter d'être en chaise roulante, d'accepter d'être lavée pendant des semaines et des semaines par quelqu'un d'autre, de ne pas pouvoir prendre une douche, à encaisser toutes les douleurs, quoi. Et je pense que, comme quand on m'a opéré du cerveau, je pense que ça va aller mieux, que mon corps va être à nouveau bien et que ma vie va être encore plus intense après, quoi. Je me dis, il y a une partie de moi qui se dit, c'est fou, quel destin, quoi. C'est incroyable. Enfin, ça me donne une espèce d'adrénaline qui monte comme ça par moment et je me dis, mais j'ai fait un accident terrible, quoi. J'ai un ami qui est décédé, moi je suis encore là. Alors il faut envoyer du lourd, quoi. Il faut que ça aille. Il faut se relever et je vais danser de toute façon. Et quand je pourrai à nouveau marcher, je note dans un carnet que je vais faire les 20 km le marathon de 20 km de Bruxelles. Je note dans un carnet que je vais pas arrêter de danser quand je serai à nouveau debout. Et donc voilà, en fait, ça me porte l'espoir d'à nouveau être debout et de... En ayant, en plus, en m'étant remise debout, quoi, en ayant traversé tout ça, ça me porte. Et que si j'ai survécu, c'est pour vivre à 1000%, quoi, à 1000 à l'heure. Qu'il n'y a pas d'autre option, en fait. Qu'on ne peut pas vivre tant d'épreuves pour avoir une vie normale après. Ce n'est pas possible, ça ne vaut pas la peine, en fait. Il faut donner un sens à la douleur. Et le sens que je lui donne, c'est d'être exceptionnel, de profiter à fond de mon corps, de ma vie, quand je le pourrai, quoi. Et donc, j'achète mon billet et je prévois de retourner à Valparaiso le 1er décembre 2017, presque un an après mon accident. Et je me sens vraiment déprimée à ce moment-là, donc ça me permet vraiment d'avoir une lumière au fond du tunnel, c'est que je vais retrouver Valparaiso, je vais retrouver cette ville qui m'a déjà sauvée deux fois, et donc ça va aller, quoi. Et je sais qu'en y retournant, je vais trouver, encore une fois, je vais trouver la réponse aux questions que je me posais, et je vais trouver un sens à ma vie, à cette nouvelle vie d'handicapée, quoi. Et donc, je prends mon billet. Le trajet est difficile parce que j'ai très, très mal aux jambes. Mais malgré ça, j'y vais toute seule. Et j'arrive à Valparaiso le 1er décembre. Et évidemment, une des grosses motivations, c'est de revoir Marco. Parce que je sais que Marco est à Valparaiso. Pour moi, c'est clair qu'il m'a sauvé la vie. Pour moi, c'est clair que s'il ne m'avait pas pris dans ses bras au moment où où j'étais en train de perdre tout mon sang sur le sol de l'immeuble dont j'étais tombée. C'est clair pour moi que j'aurais pas survécu s'il avait pas été là. Donc il faut que je le revoie. Ça fait partie vraiment de mon pèlerinage. Et il faut aussi que j'y retourne pour cet ami qui est décédé. Je dois retourner devant ce toit debout et dire, ben voilà, tu vois, je sais pas à qui le dire, mais me dire à moi-même, en fait, je l'ai fait, quoi. Je suis plus forte que ça. Et maintenant, je vais continuer ma vie normalement. Évidemment, je suis envahie de plein d'émotions différentes, mais je suis surtout très, très émue et fière de moi d'avoir réussi cette énorme défi de me remettre sur pied. Je suis pleine d'émotions, évidemment, parce que je pense beaucoup à mon ami qui est décédé. Je pense à toute ma famille qui m'a aidée, à tous mes amis qui ont vraiment toujours été présents et qui ont dû supporter aussi, mais évidemment, mes sauts d'humeur et tout, parce que c'est pas tous les jours facile. Et j'arrive devant le bâtiment et le taxi me dépose devant le bâtiment. Et là, en fait, je reste une heure à regarder le toit et j'hallucine, en fait. J'hallucine de voir à quel point il est haut, ce toit. Et j'imagine mon corps qui tombe. Je revois, je ressens l'impact que ça a été dans mes os, dans mes pieds. Et c'est un moment super fort, en fait, parce que je me dis, ben, putain, j'ai réussi, quoi. Je l'ai fait, je suis debout devant ce toit. Donc voilà, il me faut du temps pour re-rentrer dans l'auberge, parce que je sais que je vais revoir mes amis, certaines personnes qui étaient là. Et en fait, le staff a vraiment beaucoup changé, l'équipe a beaucoup, beaucoup changé. Et Marco, il est à Santiago. Donc je passe d'abord quelques jours dans l'auberge et c'est vraiment quelques jours doux, en fait, parce que je me sens bien d'être revenue. Je revois Marco et c'est super émouvant. Et on ne reparle pas trop de l'accident parce que pour lui, en fait, ça a été vraiment traumatisant. Et moi, je sens que ça me fait du bien de me rendre compte que je suis pas là seulement pour Marco, mais aussi pour moi, pour faire ce pèlerinage. Et en fait, j'entends parler d'un Brésilien un jour sur la terrasse. Et directement, je me dis, je sens que ce Brésilien va être quelqu'un de spécial, quoi. Je ne sais pas l'expliquer, mais je le sens juste en entendant parler de lui, je me dis, ça va être quelqu'un de spécial. Et en fait, je le rencontre le lendemain. Et bah, pas du tout, en fait, je me dis, enfin, il fait la gueule, enfin, on se croise dans un couloir et je suis un peu déçue parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, mais en fait, il se trouve que ce garçon, bah, on apprend à se connaître, on se rapproche vraiment très rapidement. Et en fait, la première fois qu'on s'est parlé, c'est parce que bon, j'ai une démarche, je boite quand même, ça se voit quand même, enfin moi en tout cas, je sens bien que je boite pas mal et moi je sens que je suis différente dans ma marche que d'autres personnes. Et donc un jour je traverse un couloir et il me suit derrière et je sens que il me suit de près et donc je lui dis ah, arrête de te moquer parce que je boite. Et en fait là il me dit de quoi tu parles, tu boites pas du tout. Et puis donc déjà pour moi c'est entendre ça, c'est incroyable en fait, parce que vu que moi je me considère comme une personne handicapée, qui une espèce de boiteuse, une jeune boiteuse. Ben c'est incroyable pour moi d'entendre quelqu'un qui me dit qu'il n'a même pas remarqué que je boite. Et donc, en fait, on commence à discuter. Enfin, je lui explique mon accident, etc. C'était la première personne de l'auberge à qui j'expliquais vraiment mon accident en détail. Et en fait, sa réaction, c'était de me dire que... Ben, que ça ne se voyait pas du tout qu'il m'est arrivé tout ça et Et quand je lui disais que du coup, moi, je ne voyais pas quel intérêt quelqu'un pourrait trouver un jour, enfin, que personne ne pourrait me trouver jolie ou quoi, parce que mon corps est... Pour moi, mon corps, il est en morceaux, quoi. Et vraiment... et que ça se voit... Enfin, pour moi, mon handicap, il est vraiment visible et ça repousserait n'importe qui. Et lui, en fait, il me dit, ben non, moi, je ne vois pas du tout ça. Et t'es super jolie et des choses comme ça. Et du coup, en fait, à partir de cette conversation, moi, c'était clair pour moi que, en fait, c'est ce que... Ma première intuition était vraie et que c'est une personne qui va... Que c'est la réponse à ce que je cherchais en retournant à Valparaiso, en fait. Que c'est la réponse à toute la souffrance, c'est de trouver quelqu'un qui ne me voit pas comme une handicapée, mais comme une fille jolie. Et, ben, une fille normale, quoi. Juste une fille jolie et gentille et marrante, quoi. On essaye tous les deux de notre côté de passer un maximum de temps avec l'autre. Et aux soirées, surtout, on se rapproche pas mal parce qu'en fait, moi, je suis complètement... Vu que je voyais bien dans son regard qu'il me voyait comme quelqu'un de normal, ben, je me sens légitime de danser, même si je danse pas très bien, que j'ai une drôle de démarche avec mes jambes qui me font mal. Et donc, on danse ensemble et on passe vraiment des beaux moments. Et on va se promener ensemble et il m'aide quand je me sens pas très bien et tout. Et en fait, c'est merveilleux pour moi de me voir à travers son regard. Et c'est vraiment une renaissance pour moi de voir quelqu'un, de me sentir désirée et aimée par une personne que je trouve si belle, en fait. Et en plus, c'était la première fois que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait vraiment un échange et que j'étais pas toute seule à projeter plein de choses sur quelqu'un. Je sentais bien qu'il y avait une vraie connexion entre nous. Et en fait, pour moi, c'était la plus belle des réponses à ce drame qu'avait été l'accident et à toute cette année de souffrance et cette année absurde, quoi. Enfin, quand on voit plus l'intérêt à se lever tous les matins, si c'est juste pour souffrir, quand on sait plus pourquoi on est là, en fait, l'amour, c'est la plus belle des réponses parce qu'en fait, ça donne un sens à tout ce qu'on fait, de se dire que notre existence, notre présence au monde est désirée par quelqu'un, quoi, par quelqu'un d'autre. Il s'est rien passé pendant le moment où on était ensemble, mais le dernier jour, il m'a reconduit à l'aéroport en bus. Et en fait, pendant tout le trajet de bus, on s'est embrassé. C'était magnifique, en fait, de dire au revoir comme ça, cette fois-ci, de dire au revoir de cette manière à Valparaiso. Mais quand on s'est quitté à l'aéroport, quand il m'a déposé, je savais très bien qu'on se reverrait. Et pour moi, c'était ce dont j'avais besoin, en fait. C'était un objectif. Je savais très bien que, du coup, retourner au Chili, dans un pays qui a un tel système de santé, c'est sacrifier mon bien-être d'un point de vue de la santé, parce que je savais très bien que je ne serais pas suivie ou bien que ça allait me coûter un pont d'être suivie comme je le suis en Belgique, mais au Chili. Mais en fait, je jurais plus que par cette relation. Et vraiment, c'était une question de survie pour moi d'être avec cette personne parce que j'avais besoin de me voir à travers son regard à lui, quoi. On a vécu ensemble plusieurs mois dans l'auberge de jeunesse, puis on a décidé de voyager à deux. Ça m'a permis de voyager, alors que moi, je ne pensais plus pouvoir voyager. Vu mon état de santé, ce n'était pas possible, en fait. Mais le fait de pouvoir voyager en van, ben, moi, je pouvais bouger sans avoir mal aux pieds, sans marcher trop. Et donc, ça a été un voyage merveilleux. On était en Bolivie, on a été au Pérou. Il y avait toujours quand même... je sentais bien toujours ce problème de ma santé, qui était toujours latent, qui était toujours quelque part, quoi. Et je sentais bien que je me forçais vraiment, que je devais donner une énergie incroyable pour oublier ma douleur, pour pouvoir le suivre, parce que lui, son rêve, c'est de voyager. C'est sa vie, en fait, voyager. Et donc, en fait, moi, j'ai tout donné, j'ai sacrifié vraiment ma santé pour pouvoir le suivre, parce que je souffrais, parfois, je souffrais le martyr, je n'en pouvais plus, mais... Je voulais que ça marche, quoi. Et je voulais être normale et je voulais qu'on continue à deux. Donc voilà, pendant des mois et des mois, j'ai essayé de mettre en silence ces douleurs pour pouvoir continuer. et pour pouvoir être normale. J'ai eu toute cette phase où ça allait de mieux en mieux. J'avais l'impression, ma mobilité, en tout cas la flexion de mes chevilles, des petits détails comme ça, j'avais l'impression que ça allait de mieux en mieux. Et puis en fait, il y a un moment où... Parce que c'est pas neurologique en fait, c'est mes os que j'ai brisés. Et donc en fait, il y a un moment où on peut plus... Il n'y a plus d'amélioration, quoi. Un an et demi après ma chute, plus ou moins, je suis retournée au Chili en novembre 2018 pour y vivre 6 mois. Et je me suis rendue compte en vivant dans une petite maison, en ayant un rythme de vie assez modéré, qu'en fait, même comme ça, j'y arrivais plus en fait, que j'avais trop mal, que la douleur était trop, trop importante. Et donc en fait, en plus, j'avais ces IRM à passer, ces IRM de contrôle. Pour ma tumeur au cerveau en même temps. C'était évidemment plus simple de faire ça en Belgique. Et donc, je suis retournée en Belgique pour faire une IRM de contrôle 7 mois après être arrivée. Et en fait, en retournant en Belgique, je me suis rendue compte que ma santé devenait vraiment un poids. Que je pouvais plus faire semblant, quoi. Et que je pouvais plus... Qu'on a beau... Que les sentiments peuvent vous donner une force incroyable, mais quand le corps n'en peut plus, c'est plus possible de lutter, en fait. C'est une histoire qui est... Je savais bien que c'était une histoire qui n'allait pas pouvoir continuer longtemps. Et en fait, ce qui est vraiment difficile, c'est que c'est moi qui ai dû décider un moment, qui ai dû dire, OK, j'abandonne, en fait. J'ai une certaine résilience à la douleur, mais je vois aussi qu'avec le temps et la déception, en fait, que ça se dégrade, parce que je ne pensais pas que ça allait se dégrader, je sens que je suis arrivée à un moment où, en fait, je ne peux plus faire semblant. Je suis jeune, j'ai 27 ans. Les gens, ils pensent, quand ils me voient vraiment, ils pensent que ça va. Je rigole beaucoup, j'ai de l'humour, etc. Mais en fait, à l'intérieur de moi, il y a cette accumulation de souffrance, souffrance physique. Plus que tout, c'est la souffrance physique qui fait qu'en fait, ça ne va pas, quoi. Et que je ne peux plus essayer d'être normale parce qu'en fait, je ne suis pas normale du tout. Qu'à 27 ans, avoir été opérée 2 fois du cerveau, avoir cette maladie qui va revenir, mais on ne sait juste pas quand, et avoir survécu une chute de 15 mètres, ce n'est pas normal du tout. Et ça, c'est une autre chute que j'ai eue dans ma vie. C'est en fait le moment où je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller mieux, quoi, que ça allait faire que se dégrader et que cette douleur, j'allais devoir vivre avec toute ma vie. Combien de fois il faut mourir pour renaître, combien d'épreuves il faut traverser pour que ce soit bon, pour être quitte, pourquoi tout ça en fait, pourquoi souffrir tant. Enfin, j'ai pas trouvé la réponse dans l'amour parce que ça s'épuise à un moment, quoi. Visiblement, on peut pas compter que là-dessus. Et donc en fait, je peux compter que sur moi en fait, trouver une nouvelle énergie, une nouvelle force intérieure, mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, quoi. Et donc, il faut trouver une nouvelle source.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Ouedraogo. La musique a été composée par Adrien Casalis, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast, à suivre les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, à Chapudelot sur Instagram. À très vite.